Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec Claude Bardet et Jacques Fontaine, président et secrétaire de l'association France-Palestine Solidarité au niveau local. Alors, je me tourne peut-être vers Claude. France-Palestine Solidarité, qu'est-ce que France-Palestine Solidarité, bien que le nom soit déjà évocateur, Claude?
Le nom en dit très long. Peut-être dire d'abord que l'association France-Palestine Solidarité existe depuis 2001 au niveau national, suite à la fusion, regroupement de deux associations qui existaient préalablement depuis beaucoup d'années, une qui s'appelait l'association France-Palestine et une qui s'appelait l'association médicale France-Palestine, elles se sont regroupées pour créer donc l'AFPS. En 2001, et à la suite de ce regroupement, se sont créés dans plusieurs départements en France des groupes locaux de l'AFPS, ce qui était le cas de l'Ain, puisque l'AFPS dans l'Ain existe depuis 2002.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous soyez là? Quelle est votre motivation?
À titre personnel, vous me demandez ça?
À titre personnel et au titre de l'association.
Parce que...
Et au titre de l'association.
Parce que les gens qui sont venus adhérer ou qui viennent adhérer et qui adhèrent maintenant à l'AFPS ont des motivations parfois, enfin, des motivations différentes, j'allais dire. Certains, c'est par conviction politique très rattachée à la défense... Du droit des peuples, on va dire. D'autres, c'est plus pour des histoires personnelles ou familiales, parce qu'ils connaissaient des gens qui vivaient en Palestine et qui leur ont rapporté la réalité de l'oppression du peuple palestinien. Les motivations sont assez diverses.
Si on parlait de la défense du droit des peuples.
Oui, je disais, il y a un certain nombre de gens qui, à la base, adhère à l'AFPS parce que c'est dans la ligne de la défense du droit des peuples, la défense du droit à l'autodétermination, comme ils avaient été engagés précédemment pour un certain nombre d'entre eux dans d'autres luttes que je pense historiquement au Vietnam, à l'Algérie, etc.
Oui, alors, je pourrais poser la question, pourquoi cette polarisation sur la Palestine, justement, puisque des peuples opprimés, il y en a d'autres sur la Terre. Et il y en a eu d'autres.
Oui, bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'on est adhérent à l'AFPS qu'on n'est pas solidaire d'autres peuples et qu'on ne s'engage pas dans d'autres causes.
Oui, mais alors pourquoi cette polarisation?
Pourquoi cette polarisation? Je pense que tout à fait consciemment ou plus inconsciemment, je crois que les gens ont conscience que la situation du peuple palestinien n'est pas un truc qui ne les concerne pas, mais que c'est quelque chose qui est central et qu'il est devenu encore plus dans la situation mondiale aujourd'hui. Et on le voit bien encore plus maintenant.
Si vous en disiez plus sur ce côté central.
Oui, juste une petite précision. Je rajoute à ce que disait Claude. Au départ, au moment de la création nationale de l'AFPS, il devait y avoir 1500 adhérents. L'an dernier, on était un peu moins de 5000. Maintenant, on est 5600. Il y a une augmentation très forte. À chaque période de conflit, il y a une augmentation très forte. Je pense que ça aussi, c'est important. Et nous sommes devenus la première association française de soutien au peuple palestinien. Donc, je crois que c'est quand même... Il faut quand même le noter. Alors, effectivement, il y a des motivations qui sont diverses. Mais il y a une ligne politique qui se place, à mon avis, comme Claude l'a dit, dans la filiation de l'intérêt pour des militants français venant de diverses obédiences, principalement de gauche, mais que je sache, De Villepin n'est pas un homme de gauche. Et ses positions sur la Palestine sont tout à fait correctes. Il pourrait être membre de notre association s'il le souhaitait. Donc, il y a un intérêt pour les questions internationales et qui est d'autant plus important, à mon avis, aujourd'hui, que nous sommes maintenant, comme disait McLuhan il y a un certain nombre d'années, dans un village planétaire, et que les conflits, comme le conflit israélo-palestinien, mais comme d'autres également avant, ou d'autres actuellement en cours, je pense à l'Ukraine, je pense à la question de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie qui a rebondi au mois de mai de manière extrêmement violente. Toutes ces questions-là font qu'il y a des militants qui voient cet intérêt global, des militants internationalistes, dont certains étaient sur le modèle de l'international communiste, il faut bien le dire, mais d'autres sont sur d'autres modèles politiques. Hein. Mais tous sont attachés à cette relation forte avec les questions internationales.
Avec la question internationale et avec la décolonisation, d'après ce que vous venez de me dire. Donc vous êtes bien sûr en pensée avec d'autres associations.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et la FPS est l'animatrice au niveau national et bien souvent au niveau local de collectif Palestine. Et il existe un collectif national pour la paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui comprend plus de 40 organisations, syndicats, partis politiques, associations, parfois des associations locales, associations nationales, bon, comme le CCFD ou d'autres. Hein. Donc on a là effectivement des relations permanentes. Et au niveau du département de l'Ain, on a aussi des relations permanentes dans le cas du collectif Palestine avec les mêmes associations, des partis politiques, etc.
Est-ce que vous avez des activités pour faire connaître donc, actuellement donc, la situation ?
Alors,
conférences, hein,
oui. Ouais. La FPS, elle développe ses actions dans quatre directions. Je ne sais pas si on aura le temps de les aborder les quatre, mais la première, c'est la formation et l'action politique. C'est écrit dans notre charte. Depuis qu'on existe, j'allais dire, un de nos axes importants est de faire connaître la réalité de la vie des Palestiniens et des Palestiniennes. Parce qu'on peut dire que globalement, les médias dominants occultent cette réalité. Et donc, il nous paraît important d'essayer de la faire connaître. Ce n'est pas toujours facile, mais entre autres, on a soit en tant qu'association, mais la plupart du temps, dans le cadre du collectif Palestine 01, déjà organisé des conférences pour informer les gens et que les gens soient plus aptes à comprendre les enjeux qu'il y a derrière cette question-là. Donc, plutôt que parler de celles qu'on a déjà eues, par exemple, je peux parler de celle qui aura lieu prochainement, puisqu'on a invité Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, à venir. Il devait venir au mois de juin, il était empêché. Donc, il viendra le 4 avril pour une conférence à Jasseron. Voilà, donc on essaye d'informer le plus possible les gens de différentes manières. Par exemple, on a aussi le groupe local de l'Ain publie une petite brochure qui s'appelle Info Action, qu'on publie 4 fois par an et qui est distribuée aux adhérents, mais aussi à des sympathisants, mais aussi à des responsables politiques, etc. Donc l'information nous paraît un point important et forcément cet aspect-là est passé un petit peu en second plan depuis un an puisque malheureusement nos grosses activités, c'est les manifestations organisées toutes les semaines à Bourg depuis le 20 octobre, même si la première avait été interdite par Madame la préfète, et puis organisée aussi à Oyonnax, Nantua, bientôt à Bellegarde, peut-être un jour dans le pays d'Aix, puisqu'il y a un groupe qui se mobilise là-bas, etc.
Alors, dans ce que vous m'avez dit, donc vous avez parlé de manifestations que vous organisiez, de vulgarisation que vous essayez de faire par rapport à la situation qui échappe beaucoup aux grands médias nationaux, qui n'est pas en tous les cas en exergue. Et puis, vous avez parlé de Ronnie Broman. C'est intéressant de parler de Ronnie Broman, parce que j'ai cru comprendre qu'il était né en Israël.
Alors, moi, je ne connais pas tout à fait sa vie, mais je crois que oui. Alors, c'est intéressant. Moi, ça me fait toujours sourire comme si la parole des gens qui sont israéliens, qui sont nés d'Israël, avait plus de valeur et plus de poids que celle des autres. Je pense que quelqu'un qui n'est pas né d'Israël et qui parle de la situation de la Palestine devrait être aussi audible. Mais malheureusement, souvent, c'est comme ça. Et effectivement, René Breumann, il est plus entendu ou entendable parce que il est issu d'une famille juive, si je ne me trompe pas, né en Israël, etc.
Et il a des opinions, comment dire, il a une, par rapport à la FPS et par rapport aux vues donc, de la FPS, il prône les mêmes valeurs que la FPS.
Bah, on partage, je pense, avec lui beaucoup de valeurs. La première des valeurs étant le droit international et le droit humanitaire dans le droit international, qui est droit qui est aujourd'hui complètement bafoué depuis un an. Tout le monde s'accorde enfin tout le monde, presque tout le monde, ou en tous les cas tous les gens qui sont objectifs, s'accordent à dire que à Gaza en particulier, et maintenant d'une façon plus large au Liban, en Cisjordanie, ce qui se produit, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Beaucoup disent peut-être un génocide, mais nous, on enlève le peut-être, c'est un génocide. Donc, tout sans qu'il n'y ait aucune sanction contre Israël. Donc, le droit humanitaire est complètement bafoué. Et c'est bien une des raisons pour laquelle se bat René Breumann, effectivement.
Voilà. Oui, Claude a tout à fait raison. On a là une aggravation de la violation de tous les droits par le gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou, c'est très clair. Mais il ne faut pas oublier que sur les centaines de résolutions prises par l'ONU, que ce soit en Assemblée générale ou par le Conseil de sécurité, elles n'ont pas exactement le même poids, mais enfin bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Sur ces centaines, il y en a une ou deux qui ont été respectées par Israël. Parfois, il y en a même une sur les réfugiés qui était respectée par Israël pour être admise à l'ONU et qu'ensuite elle a dénoncé. Hein. Jamais, sauf exception, mais sur des centaines, ça a dû arriver une ou deux fois, Israël n'accepte les résolutions de l'ONU. Elle se met totalement en dehors du droit international, en dehors des conventions de Genève qu'elle a signées sur le droit de la guerre, etc., etc. On est vraiment dans un déni du droit international. Et aujourd'hui, le droit international, avec la montée des régimes qu'on appelle illibéraux, genre Trump, Bolsonaro, Orban et compagnie, ou des dictatures genre Poutine ou Xi, on est dans un déni du droit international et un affaiblissement du droit international qu'on n'a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui demande comment le monde va fonctionner s'il n'y a plus de droit international.
Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, Jacques, pour moi, la situation est inédite. On a l'impression que tout le monde est au balcon, notamment la FPS informe, beaucoup informe, malgré l'information donc, officielle, et nul ne réagit. Comment vous expliquez cette situation ? Face à ce massacre.
C'est une situation extrêmement complexe qui est liée à des intérêts politiques importants et à une proximité humaine, idéologique, politique entre l'État d'Israël et l'Occident. L'État d'Israël est au départ né à partir de d'une colonisation, la colonisation britannique, qui a été décidée par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et qui a été votée, je crois, par la Société des Nations en 1922. Ça fait plus de 100 ans que la Palestine est colonisée, d'abord par les Britanniques et maintenant par l'État d'Israël. Et cet État d'Israël, les bases politiques, je ne parlerai pas des bases théologiques, évidemment, que tout le monde connaît, mais les bases politiques, sociétales de cet État, économiques, sont les mêmes bases que celles de l'Occident, que ce soit l'Europe occidentale ou les États-Unis. Et il y a là effectivement une proximité qui est importante. Mais évidemment, c'est pas la seule raison. Et le fait que du génocide juif par les nazis a évidemment attiré au niveau de l'Occident, qui, dont il ne faut pas oublier qu'il a été complice de ce génocide, hein, on pourrait parler de Papon ou de quelques autres en France, hein, et dans d'autres pays, et donc où il y a une sympathie pour l'État d'Israël, et un rejet, dans certains cas ça va jusqu'au rejet, dans d'autres cas c'est de l'indifférence pour le sort des Palestiniens, dont certains sont musulmans, dont la majorité est musulmane, dont certains sont chrétiens. Et même malgré ça...
En tout cas, on a bien compris donc, l'action que vous menez pour que ces peuples, ce peuple donc, puisse arriver à son autodétermination. Le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de notre émission, Claude, est-ce que vous avez un espoir ?
Oh, mon pauvre monsieur, par les temps qui courent, c'est difficile de parler d'espoir. Le seul espoir qu'on a, c'est premièrement la volonté qui nous impressionne chaque fois du peuple palestinien et sa capacité à résister. Voir ce qu'ils font encore aujourd'hui avec le peu de moyens qu'ils ont, reconstruire déjà à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc mon principal espoir, il est là. Puis mon deuxième espoir, mais qui est à très très long terme, c'est que dans la vie du monde, les situations de domination d'un peuple sur un autre n'ont jamais duré éternellement.
Messieurs, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, amis auditeurs.